OK, on va commencer notre 26e leçon. Vu qu'elle est longue, elle va probablement s'échelonner sur cette semaine et la semaine prochaine. Et ça va terminer notre série sur la sanctification. Aujourd'hui, j'aurais pu m'organiser pour la faire en une leçon, mais j'aime pas couper les coins ronds quand c'est intéressant et je voulais pas. On prendra deux semaines, c'est pas plus grave que ça. Alors, ça va être la leçon 26 aujourd'hui. Et le thème, pour le relier à la sanctification, c'est « Christ est tout ». Ça dit, par exemple, dans Colossiens, au chapitre 3, dans le verset 11, « Il n'y a ni grec, ni juif, ni incirconcis, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni libre, mais Christ est tout en tous. » Dans Philippiens, au chapitre 1, verset 21, ça dit que pour moi, vivre, c'est Christ, et mourir, c'est un gain. Comment vous avez entendu plusieurs sermons sur ce thème-là? Mais je ne suis pas sûr qu'on comprend ce qu'on dit quand on dit ça, là. Parce que Paul, pour lui, c'est vrai que sa vie, c'était « Pour moi, vivre, c'est Christ ». Il avait juste ça dans la tête. Toutes ses actions étaient pour Christ. Peu importe les souffrances, les choses qu'il fallait qu'il rencontre, pour lui, c'était une réalité. Pour moi, vivre, c'est Christ. Alors, pour nous, je pense qu'on est loin de cet objectif-là, mais cependant, ça devrait être notre objectif, que notre vie au complet, ça devrait être de vivre pour Christ. Dans Galates 2, au verset 20, ça dit aussi, « Je suis crucifié avec Christ. Et si je vis, non plus moi, mais c'est Christ qui vit en moi, et ce que je vis maintenant en la chair, je vis en la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » C'est pas beaucoup de mots, hein? Christ est tout. Cependant, si on se mettrait à analyser la signification de tout ça, vraiment, ça résume ce qu'on pourrait appeler l'essence et la substance du christianisme. Parce qu'on dit christianisme, le mot Christ est dedans. Donc, le mot est vraiment été au sens, c'est la substance et l'essence. Alors, si nos cœurs sont d'accord avec cette vérité, tout va bien pour nos âmes. Si ce n'est pas le cas, nous avons encore beaucoup à apprendre. Examinons en quel sens Christ est tout. Demandons-nous sincèrement si ces mots résonnent comme une vérité dans nos cœurs et assurons-nous que nous ne ferons pas un naufrage spirituel au grand jour du jugement. Quand on dit que Christ est tout, et Christ devrait être tout dans nos vies, si on s'examine, qu'on demande à Dieu de nous sonder, est-ce que Christ est tout dans notre vie? Alors, comme Christ est la source du christianisme doctrinal et pratique, il nous aide à comprendre correctement les notions essentielles de la sanctification et de la justification. Tout croyant qui aspire à la sanctification authentique dans sa vie personnelle ne fera du progrès que dans la mesure où Christ trouve sa juste place dans sa marche chrétienne. Voyons de quelle manière Christ est tout. Il y a 5 points, on en passait probablement 2 ce soir et on va faire le reste la semaine prochaine. Donc, le premier point qu'on va regarder, c'est que Christ est tout dans les conseils de Dieu concernant l'homme. Alors, il fut un temps, on le sait, où la terre n'existait pas, l'homme n'existait pas. Alors, la question qu'on pourrait se poser, c'est où était Christ alors? Alors, Jean 1, verset 1 à 3, nous répond à cette question-là. Au commencement était la parole, et la parole était auprès de Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement auprès de Dieu. Toutes choses ont été faites par son moyen, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Alors, où était Christ avant que la terre existe? Bien simple, il était avec son Père, et il était avec l'Esprit Saint. Dans la félicité, dans la joie, et le besoin de créer l'homme n'était pas une obligation pour lui du tout. Philippiens, chapitre 2, verset 5 à 7, ça dit « Qu'il y ait en vous la même pensée que dans le Christ Jésus, lequel, étant en forme de Dieu, n'a point estimé usurpation d'être égal à Dieu, mais s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme d'esclave, ayant été fait à la ressemblance des hommes. Pour qu'on puisse comprendre un tel verset, il faudrait qu'on saisisse qu'est-ce que c'était pour Dieu dans sa grandeur infinie de venir sur terre et de s'incarner dans une chair d'homme. On n'a aucune idée. On a une idée, oui, le verset nous parle, le verset nous dit quelque chose, mais pour l'apprécier à sa juste valeur, il faudrait avoir une compréhension de Dieu qui est beaucoup plus élevée dans sa réalité et de comprendre que quand il est venu sur la terre, pour Dieu s'incarner dans une chair d'homme, comme ça dit, il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme, une forme d'esclave, comme ça dit dans le verset. Dans Jean 17, les versets 5 et les versets 24, ça dit « Et maintenant, glorifie-moi, toi, Père, auprès de toi-même, de la gloire que j'ai eue auprès de toi avant que le monde fût. Père, ceux que tu m'as donnés, je veux que là où je suis, ils y soient aussi avec moi, afin qu'ils contemplent ma gloire, laquelle tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. » Aimé avant la fondation du monde. Alors, avant que le monde existe, avant que la terre soit là, avant que les hommes soient créés, déjà, il était aimé par le Père et le Saint-Esprit dans l'éternité. 1 Pierre, chapitre 1, versets 18 à 20. « Sachant que ce n'est pas par des choses corruptibles, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine conduite qui vous avait été transmise par vos pères, mais par un sang précieux, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, celui du Christ, préconnu avant la fondation du monde. » Alors, le moment où la terre n'existait pas, que l'homme n'existait pas, Christ était déjà là. Maintenant, si on regarde le temps où l'homme fut formé de la poussière de la terre, on pourrait encore reposer la même question. Où était Christ quand l'homme a été créé à partir de la poussière de la terre? Colossiens, chapitre 1, verset 16, nous dit « Parce que c'est par lui qu'ont été créées toutes choses. » Donc, souvent, on parle de Dieu le Père comme étant le Créateur, mais Jésus-Christ est aussi le Créateur, parce que ça dit « C'est par lui, puis on parle de Christ dans le contexte, qu'ont été créées toutes choses, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre, les visibles, les invisibles, soit trône, soit domination, soit principauté, soit autorité. Toutes choses ont été créées par son moyen et en vue de lui. » C'est profond. Toutes choses ont été créées par lui, mais dans le but de, en vue de lui, c'est le but principal de la création. Dans Hébreux 1:10, ça dit « Et encore toi, Seigneur, au commencement, tu fondas la terre, et les cieux sont les œuvres de tes mains. » Un beau passage aussi, c'est celui de Proverbes chapitre 8, versets 27 à 30, où on parle de Christ, et lorsque ça dit « Lorsqu'il disposait les cieux, j'étais là. Lorsqu'il traçait un cercle sur la face de l'abîme, lorsqu'il fixait les nues en haut, lorsque les fontaines de l'abîme s'élancèrent avec force, lorsqu'il assignait sa limite à la mer, dont les eaux ne peuvent transgresser son ordre, lorsqu'il ordonnait les fondements de la terre, j'étais à côté de lui, son architecte, et j'étais ses délices chaque jour, me jouant devant sa face en tout temps. » Autrement dit, au début de la création, Christ était avec le Père, participant lui-même à la création dans la joie avec le Père. Maintenant, on a, avant que l'homme existe, avant que la création existe, on a au moment où l'homme a été créé, et maintenant, on a le jour où, Christ, où le péché est entré dans le monde. Alors, bien entendu, on le sait, le péché a fait perdre à l'homme l'amitié de Dieu et sa faveur, et apporta à la place des choses comme la culpabilité, la corruption, l'impuissance et le désespoir. Alors, on pourrait reposer la même question qu'on s'est posée pour les deux autres points. Où était Christ alors? C'est intéressant de constater que les Écritures nous enseignent que le jour même de la chute, Dieu affirma à l'homme que la semence de la femme, on parle de Christ à venir, prophétiquement, produirait éventuellement le Messie sauveur. Genèse 3,15, on vient d'étudier ces choses-là, alors c'est tout récent dans notre mémoire. Et je mettrai inimitié entre toi et la femme. Entre ta postérité et sa postérité, cette postérité te brisera la tête et tu lui briseras le talon. OK, on a vu, avant que la terre existe, au moment où l'homme a été formé, le jour où le péché est entré dans le monde, où était Christ, on a eu les réponses. Maintenant, il fut un temps où l'humanité fut plongée dans l'ignorance et l'idolâtrie. On est rendu dans la Genèse, on sait qu'à partir du moment où il y a eu la tour de Babel et après, aller jusqu'à Christ, il y a eu énormément d'idolâtrie, énormément d'ignorance, énormément de ténèbres sur la terre. Pendant des milliers d'années, les nations de la terre, et là on pourrait en nommer quelques-uns qu'on connaît par les Écritures, les Égyptiens, les Assyriens, les Perses, les Grecs et les Romains, furent littéralement submergés par les ténèbres spirituelles de l'idolâtrie et de la grossière superstition, à l'exception d'un petit peuple, de quelques individus du petit peuple, même pas tout le peuple complet, les Juifs. Dans 1 Corinthiens, au chapitre 1, verset 21, ça dit « Dieu n'a-t-il pas rendu folle la sagesse de ce monde? Car tandis que dans la sagesse de Dieu, le monde n'a point connu Dieu, au moyen de la sagesse, Dieu a bien voulu sauver les croyants au moyen de la folie de la prédication. » Voyez-vous, toute la sagesse des hommes n'était qu'ignorance, n'était que ténèbres, n'était qu'idolâtrie. Et Dieu appelle le fait que Christ est venu sur la terre, il dit, Dieu a bien voulu sauver les croyants au moyen de la folie de la prédication. Alors, aux yeux des païens, quand on leur parle des choses de Dieu, quand on leur parle de Christ, du sacrifice de Jésus-Christ, pour eux, c'est de la folie. Je sais pas, vous avez sûrement déjà assez témoigné pour savoir la vérité de ça. Alors, on pourrait se poser encore la question, où était Christ au moment de toute cette période-là où l'ignorance a régné sur la terre? Bien entendu, Christ a laissé le ciel pour venir sur la terre et accomplir le salut des élus. Il a pris la nature humaine et il est venu sur la terre pour accomplir à la perfection la volonté de Dieu. Il a souffert sur la croix la colère de Dieu sur lui, alors que celle-ci aurait dû s'abattre sur nous. On le dit souvent, mais si on comprenait vraiment la profondeur de ce que ça veut dire, ça, là, on tomberait littéralement sur nos faces en adoration, ça j'en suis convaincu. Parce qu'à force d'utiliser du vocabulaire théologique, des fois, il vient un temps que le vocabulaire se vide un peu de son sens. Bien entendu, il accomplit la loi de Dieu de façon substitutive pour ses élus. Il est mort pour nos péchés, les péchés de son peuple, et ressuscita pour notre justification. Il est monté au ciel, après sa résurrection, s'est assis à la droite de Dieu, jusqu'à ce que ses ennemis lui servent de marchepied. Il intercède maintenant pour ses élus et s'occupe de leur croissance, de leur protection et de leur direction. Maintenant, il va venir un temps où le péché sera éliminé de ce monde. Quand on dit que Christ est tout, il faut le voir dans chacune des périodes. Alors, la méchanceté, bien entendu, selon les Écritures, ne règnera pas toujours. Et les péchés, éventuellement, seront punis. Satan ne règnera pas toujours. La création soupire et est en travail d'enfantement jusqu'à maintenant. Il y aura un temps de rétablissement où sera établi de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Romains, chapitre 8, verset 22. Car nous savons que toute la création à la fois soupire et est en travail d'enfantement jusqu'à maintenant. Autrement dit, toute la belle création que le Seigneur a faite à la perfection, elle est maintenant très souillée par l'utilisation que les hommes en font. Quand on parle de travail d'enfantement, là, c'est vraiment le travail pour nous montrer que le péché, non seulement a affecté l'homme, mais il a affecté toute la nature aussi au complet. Dans Actes 3, versets 19 à 21, ça dit: Convertissez-vous donc et retournez à Dieu pour que vos péchés soient effacés, afin que viennent des temps de rafraîchissement de par la face du Seigneur, et qu'il envoie Jésus-Christ, qui vous a été prêché d'avance, et que le ciel doit retenir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses, temps dont Dieu a parlé dès les siècles par la bouche de tous ses saints prophètes. Alors dans 2 Pierre, chapitre 3, verset 13, ça nous dit: Or, nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre dans lesquelles la justice habite. Ésaïe, chapitre 11, verset 9. On ne fera plus de mal et on ne détruira plus sur toute la montagne de ma sainteté, car la connaissance de l'Éternel remplira la terre comme les eaux couvrent le fond de la mer. Où sera Christ alors et que fera-t-il? Christ lui-même, bien entendu, à cette époque-là, sera le roi. Il reviendra sur la terre et fera toutes choses nouvelles. Il viendra sur les nuées du ciel avec puissance et grande gloire, et tous les royaumes de la terre deviendront siens. Devant lui, tout genou fléchira et toute langue le confessera comme Seigneur, et son règne n'aura jamais de fin. Matthieu 24, versets 29 à 31. Or, aussitôt après la tribulation de ces jours-là, le soleil sera obscurci et la lune ne donnera pas sa clarté, et les étoiles tomberont du ciel, et les puissances des cieux seront ébranlées. Et alors paraîtra le signe du Fils de l'homme dans le ciel. Alors aussi toutes les tribus de la terre se frapperont la poitrine et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel et avec grande puissance et grande gloire. Et il enverra ses anges avec une grande voix de trompette et ils rassembleront ses élus des quatre vents, depuis l'un des bouts de la terre jusqu'à l'autre bout. C'est impressionnant comme image, c'est comme des images. Apocalypse, chapitre 11, verset 15. Et le septième ange sonna de la trompette et il eut de grandes voix dans le ciel qui disaient: Les royaumes du monde sont devenus le royaume de notre Seigneur et de son Christ, de son oint, et il règnera au siècle des siècles. Dans le psaume 2, verset 8, on a le Père qui dit à son Fils: Demande-moi et je te donnerai les nations pour ton héritage et pour ta propriété les bouts de la terre. Philippiens, chapitre 2, versets 9 à 11. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a gratuitement donné un nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent de ceux qui sont dans les cieux et sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que le Seigneur, c'est Jésus-Christ, à la gloire de Dieu le Père. Des fois, c'est quand je me souviens d'avoir déjà évangélisé, puis quelqu'un m'avait dit: Moi, je ne gênerai jamais devant Dieu. Je pense que tu te trompes. Un jour, tu vas fléchir le genou comme tout le monde. Parce que la Bible dit que tout le monde va le faire, tu vas le faire comme les autres. Daniel, chapitre 7, verset 14. Et il lui fut donné domination et gloire et règne, et tous les peuples, nations et langues le serviront. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point, et son règne, un règne qui ne sera pas détruit. Et je vais, il y a un autre petit point, après ça on va arrêter là. Il y aura un temps, bien entendu, que les Écritures nous enseignent que les hommes seront tous jugés. Alors ça dit: les morts, la mer rendra les morts qui sont en elle. La mort et l'enfer rendront les morts qui sont en eux, et tous ceux qui dorment dans leur tombeau seront réveillés, et tous seront jugés selon leurs œuvres. Dans Apocalypse, chapitre 20, au verset 13 à 15, et la mer donna les morts qui étaient en elle. Et la mort et le séjour des morts donnèrent les morts qui étaient en eux. Et ils furent jugés, chacun selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans le lac de feu. C'est la seconde mort. Et quiconque ne fut pas trouvé, écrit dans le livre de la vie, fut jeté dans le lac de feu. Quand on lit ces versets-là, il y a quelque chose d'extraordinairement puissant là-dedans, hein? Et de rassurant pour ceux qui sont des croyants. Parce que si on est un croyant, automatiquement, on est écrit dans le livre de vie. Mais la Bible est bien claire que tous ceux qui ne sont pas écrits dans le livre de vie vont être plongés vivants dans le lac de feu pour l'éternité. C'est des réalités qui dépassent notre capacité de compréhension et vraiment de compréhension profonde de ces réalités-là. Je veux juste te dire que si un feu, tu essaies de mettre ta main dedans, je te souhaite bonne chance. Au bout de 2 minutes, je te jure que tu vas avoir envie de l'enlever. Mais là, c'est ton corps complet, vivant, indestructible, qui va être capable de supporter cette douleur-là pour l'éternité. Ça nous donne-tu une idée à quel point Dieu est sévère, Dieu est saint, Dieu est gracieux envers nous, à qui toute cette réalité-là va être épargnée à cause de notre foi en Jésus-Christ. Daniel, chapitre 12, verset 2. « Et beaucoup de ceux qui dorment dans la poussière du sol se réveilleront, ceux-ci pour la vie éternelle et ceux-là pour être en opprobre, en horreur éternelle. » Quand tu dis qu'il y a des gens qui sont enterrés, qui sont morts, ils vont se réveiller et ils vont être jugés. Et là, ils vont savoir qu'ils vont être là, jugés pour l'éternité. C'est terrible. Où sera Christ alors? On a posé cette question-là souvent ce soir. Bien entendu, il y a une réponse qui est très simple, c'est que Christ lui-même sera le juge. Des fois, on s'imagine que c'est Dieu le Père qui va juger. C'est pas Dieu le Père qui va juger, c'est Dieu le Fils. Voyez-vous, dans Jean 5, 22, ça se dit « Car le Père non plus ne juge personne, mais il a donné le jugement tout entier au Fils. » Dans Matthieu 25, les versets 31-33, « Or, quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, et tous les saints anges avec lui, alors il s'assoira sur le trône de sa gloire, et toutes les nations seront rassemblées devant lui, et il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs, et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. » Le Seigneur ne se trompera pas, il sait reconnaître ses brebis, puis il sait reconnaître les boucs aussi, il va les séparer l'un de l'autre. Dans 2 Corinthiens, chapitre 5, au verset 10, ça dit « Car il nous faut tous être manifestés devant le tribunal du Christ, afin que chacun reçoive, selon ce qu'il aura fait, par le moyen du corps, soit bien, soit mal. » Alors, on va arrêter là pour aujourd'hui. On terminera la balance la semaine prochaine. C'est là que ça.